France Inter.
Les informations, Éric Delvaux, bonsoir.
Bonsoir Manu Payet et à dimanche prochain. Bienvenue à tous au sommaire ce soir. Les drones civils interdits de survol à partir de demain au-dessus du Danemark. Il s'agit de sécuriser le sommet européen qui s'ouvrira mercredi à Copenhague. La Moldavie dans l'attente, dans une heure, des résultats des élections législatives. Un scrutin dont dépend son rapprochement vers Bruxelles ou bien vers le Kremlin. Quels sont les objectifs de guerre de la Russie qui intensifie ses frappes contre les civils ukrainiens? Eh bien, rendez-vous avec notre invité dans 5 minutes, le général Olivier Kempf. À la une de ce journal également, François Bayrou qui invite son successeur à trouver des compromis à gauche sans pour autant cibler constamment les investisseurs. À la CGT, Sophie Binet rétorque au contraire qu'il va bien falloir faire payer les riches. Les championnats du monde de cyclisme à Kigali, Rwanda. Plus qu'une course, une douloureuse épreuve avec 135 abandons parmi les 165 participants. Et au final, c'est Pogacar qui gagne. Enfin, attention, si vous envisagez de circuler demain dans la capitale, les moniteurs d'auto-école et autres inspecteurs veulent bloquer les rues de Paris et ils viendront de toute la France. Le temps de demain, Céline Dacosta, le lundi au soleil.
Oui, des conditions anticycloniques qui vont nous accompagner au moins jusqu'à jeudi.
Et vos prévisions complètes dans une vingtaine de minutes.
France Inter.
À partir de demain, donc, le Danemark va interdire tous les vols de drones civils sur son territoire. Ce matin encore, des sites militaires danois ont été survolés. Le Danemark y voit une intrusion de la Russie, ce que Moscou dément. Pas de drones civils donc à partir de demain, car il s'agit aussi de sécuriser le sommet européen qui va réunir les chefs de gouvernement à Copenhague. Je précise, Jean-Jacques Herry, que le Danemark assume en ce moment la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne.
La décision inédite intervient après une série de survols non identifiés et presque quotidiens depuis plusieurs jours, notamment à proximité de sites militaires danois. Le ministre de la Défense danois la présente comme une mesure de sécurité valable de demain lundi à vendredi. De cette manière, nous éliminons le risque que des drones ennemis puissent être confondus avec des drones légaux et vice-versa, explique Thomas Danielsen dans un communiqué. Cela doit permettre de faciliter le travail de la police et des services de sécurité en évitant la multiplication des vérifications. En cas d'infraction constatée, une amende ou une peine pouvant aller jusqu'à 2 ans d'emprisonnement sont prévues. Avant le sommet de mercredi à Copenhague, où sera d'ailleurs évoqué un projet européen de bouclier anti-drone, cette interdiction danoise montre la perception grandissante de la menace représentée par ces drones non identifiés, derrière lesquels beaucoup voient l'ombre de la Russie, à commencer par la première ministre danoise Mette Frederiksen, même si Moscou dément à chaque fois. Aujourd'hui, une frégate de défense aérienne allemande est arrivée à Copenhague. Elle surveillera l'espace aérien afin de prêter main forte aux services danois. Bruxelles, Jean-Jacques Herry, France Inter.
En Moldavie, les bureaux de vote fermeront dans un peu moins d'une heure. Élections législatives. De ce scrutin dépend le rapprochement vers l'Union européenne ou bien vers le Kremlin. Plus de 200 000 Moldaves de la diaspora se sont présentés aux urnes malgré plusieurs incidents selon les pays. Explication avec notre correspondante à Chișinău, capitale moldave, Maria Gert Niculescu.
Rome, Bucarest, Bruxelles, plusieurs bureaux de vote pour les Moldaves de l'étranger ont été visés ce dimanche par des fausses alertes à la bombe. À Bruxelles, le vote a été interrompu pendant 2 heures. En Moldavie aussi, des bureaux de vote réservés aux habitants de la région séparatiste de Transnistrie ont été bloqués après des alertes similaires. Des sites institutionnels et des médias font quant à eux l'objet de cyberattaques en continu depuis cette nuit, mais restent pour l'instant fonctionnels. Ces actions de déstabilisation visent à perturber le processus électoral, selon la présidente pro-européenne Maia Sandu, qui a appelé les Moldaves à exercer leur droit de vote en réponse à ces provocations orchestrées, dit-elle, par les réseaux du Kremlin. Les autorités avaient anticipé ces actions après une campagne électorale déjà marquée par l'ingérence de Moscou. Autant de moyens pour empêcher le parti pro-européen de remporter la majorité absolue. Les bureaux de vote ferment à 21h, heure locale. Le décompte pourra ensuite être suivi en temps réel sur le site de la commission électorale.
Maria Gert Niculescu à Kishinev. En Ukraine, après les frappes toujours plus massives la nuit dernière sur Kiev, frappes qui ont fait au moins 4 morts, notamment parmi les civils, la Russie rétorque n'avoir touché que des cibles militaires. Un demi-millier de drones, une quarantaine de missiles russes avaient été lancés la nuit dernière sur la capitale ukrainienne. Et bonsoir, général Olivier Kempf.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique. Quels sont donc les objectifs de guerre quand les Russes amplifient leur frappe jusqu'à faire des victimes parmi les civils? Quels objectifs, si ce n'est de terroriser la population?
Non, je ne pense pas que ce soit réellement ce qu'ils cherchent, parce que quand vous regardez le nombre de victimes civiles sur 4 ans de guerre, pratiquement, il est relativement faible. Il est important, bien évidemment, mais il est relativement faible. On a deux choses. D'abord, ils visent tout d'abord les moyens industriels et logistiques dans la profondeur ukrainienne, parce que c'est l'arrière finalement du front. Et d'autre part, les Ukrainiens eux-mêmes ont camouflé un certain nombre de leurs activités militaires et industrielles en ville, et le renseignement russe le sait. Donc, il y a ces emplacements-là qui sont visés, même si à côté, il y a bien évidemment énormément de bavures.
Y a-t-il aussi un message envoyé à Donald Trump pour lui dire que finalement c'est Moscou qui choisira seul le calendrier de fin de guerre ?
Vladimir Poutine n'a plus besoin d'envoyer de message à Donald Trump. Quand vous écoutez ce que celui-ci a déclaré cette semaine, derrière des déclarations aimables vis-à-vis de l'Ukraine, il a dit qu'il se dégageait dans les faits de l'affaire ukrainienne, qu'il souhaitait bonne chance à tout le monde. Cette façon de souhaiter bonne chance à tout le monde signifie que se désengage totalement. Donc, Vladimir Poutine n'est plus inquiété par les éventuelles menaces ou pressions de Donald Trump.
Concernant les élections aujourd'hui en Moldavie et les ingérences supposées en venance de la Russie, qu'est-ce qui en Moldavie intéresse Vladimir Poutine dans ce pays voisin à l'ouest de l'Ukraine tout de même?
Vous avez tout dit, c'est un pays qui est finalement hors de l'Alliance Atlantique, hors de l'Union Européenne, et qui est finalement un tampon entre l'Ukraine d'une part et la Roumanie d'autre part, où d'ailleurs la France a placé un bataillon en alerte. Donc c'est cette première chose. Et puis vous avez des régions extérieures à la Moldavie qui ne sont pas tout à fait satisfaites du pouvoir central. On pense à la Transnistrie, on pense à la Gagaouzie, et donc tout ça permet de mettre finalement du sel sur la plaie et d'empêcher la Moldavie d'être trop pro-européenne et donc d'être un facteur de risque pour les Ukrainiens.
Et sait-on précisément de quelle façon s'est manifestée l'ingérence russe dans la campagne des élections législatives en Moldavie ?
Oh, il y a eu notamment des achats de voix, visiblement, alors tout à fait indirect, c'est-à-dire que c'est officiellement des actions sociales avec des hommes d'affaires moldaves qui, sous couvert de donner des dépenses sociales et aider les gens à payer leurs dettes, eh bien en retour attendent bien évidemment un vote en faveur des partis pro-russes.
À propos de la série d'intrusions de drones attribuées aux Russes depuis 15 jours, en Roumanie, en Pologne, Pays-Baltes et le Danemark encore aujourd'hui. Que vaut le bouclier anti-drone qu'évoquait Jean-Jacques Herry tout à l'heure à Bruxelles, un bouclier anti-drone que l'Europe envisage de développer ?
Vous venez de le dire, il n'existe pas. Ça fait un an que les pays européens en parlent, un an qui n'est pas mis en place. Alors, sachant que c'est très difficile parce que la guerre des drones évolue très très rapidement. Tous les 3 mois, vous avez des nouvelles innovations qui font que ce qui était valable 6 mois avant est totalement obsolète après. Mais ça n'est pas en place. Et ce qui se passe notamment en ce moment au-dessus du Danemark, qui est tout sauf une petite armée, une armée ridicule, c'est une armée moderne, etc., et qui n'arrive pas à déceler 5 jours de suite, ou plus exactement 5 nuits de suite, ces drones au-dessus de son territoire, montre que collectivement, nous ne sommes pas prêts, qu'il faut faire des efforts de mobilisation et de montée en puissance de notre défense. Donc le mur de drones dont on parle est une action, mais il y a aussi des actions à faire d'un point de vue national.
Ouais, ce serait plutôt un dôme de fer ou une ligne Maginot ?
Quand vous regardez le dôme de fer, il a été très efficace contre le Hamas, mais c'était des roquettes artisanales. Il a été assez efficace contre le Hezbollah, là aussi parce que c'était des roquettes artisanales. La question, c'est celle de la masse, et puis c'est celle de la distance. Israël, c'est 150 km de long. Là, on parle de centaines au pluriel de kilomètres contre des drones qui volent à très basse altitude et qui sont beaucoup moins prévisibles que les roquettes du Hamas.
Merci beaucoup, Général. Sénégal, Olivier Kempf, chercheur associé à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Jacques Oujout, une formule encore de Donald Trump qui peut parfois nous laisser sans voix. C'était la veille de recevoir le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à la Maison Blanche. Le président américain promet quelque chose de spécial, dit-il, une première sans plus de précision à propos des négociations pour la paix au Proche-Orient.
France Inter, Éric Delvaux.
François Bayrou a pris la parole pour la première fois aujourd'hui depuis son départ précipité de Matignon le 9 septembre dernier. Les universités de rentrée du Modem avaient lieu à Lille-sur-la-Sorgue, dans le Vaucluse. Et puisqu'on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, François Bayrou s'est longuement employé à défendre son propre bilan. Et sans jamais citer son successeur, il a salué les choix fiscaux de Sébastien Lecornu, qui ne veut pas entendre parler de la taxe Zuckmann.
Le problème, c'est pas que nous ayons trop d'investisseurs et qu'ils réussissent trop. Le problème, c'est que nous n'en avons pas assez d'investisseurs pour créer des entreprises dans notre pays, pour créer des emplois et des richesses dans notre pays. Et si nous passons notre temps, comme un certain nombre le voudrait, à cibler ceux qui ont investi et qui réussissent, eh bien, nous allons donner de la France la pire des images, c'est-à-dire que nous allons faire fuir ceux dont nous avons besoin. Ce qui ne veut pas dire que quand on est dans une situation d'aisance et de prospérité, on ne doit pas participer à l'effort général.
Ne pas cibler systématiquement les investisseurs, vient de dire François Bayrou à la CGT. Sophie Binet, invitée de questions politiques à la mi-journée sur Inter. Sophie Binet estime au contraire qu'il faut remettre au goût du jour cette taxe qui veut ponctionner le patrimoine d'au-dessus de 100 millions d'euros.
L'intérêt de la taxe Zuckmann, c'est qu'il n'y a pas grand-chose qui passe à travers et que ça tape sur le patrimoine. Le patrimoine, c'est ce qu'il y a de plus inégalitaire. C'est ce dont on hérite sans avoir rien mérité. Il faut agir sur ces leviers-là. La taxe Zuckmann, c'est les 1800 personnes qui ont plus de 100 millions d'euros de patrimoine. Et c'est à cause des cadeaux fiscaux qu'on leur a donnés depuis 8 ans que nos services publics sont à l'os, que nos hôpitaux ne peuvent plus fonctionner, qu'il manque des milliers d'enseignants dans nos écoles. Et ces gens-là nous disent qu'ils ne peuvent pas payer alors que ce sont les mêmes qui, il y a quelques mois, nous expliquait, un, qu'il fallait du sérieux budgétaire et qu'il fallait arrêter la dette alors que c'est eux qui en sont responsables, et deux, qu'il fallait faire payer les privilégiés, à savoir les retraités. Mais ils n'ont quand même honte de rien.
La secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, qui n'acceptera de revoir le Premier ministre qu'après la mobilisation syndicale prévue jeudi prochain, le 2 octobre, histoire d'instaurer, dit-elle, un nouveau rapport de force. Encore une réaction ce soir à la condamnation de Nicolas Sarkozy à 5 ans de prison et après les menaces que subit la juge depuis le prononcé du jugement, Emmanuel Macron estime ce soir inadmissibles les attaques et les menaces contre les magistrats. C'est aujourd'hui la journée mondiale du droit à l'avortement, comme chaque année depuis 1990. Un droit inscrit dans la Constitution française depuis un an, mais régulièrement remis en cause. On le voit encore aux États-Unis aujourd'hui. Bonsoir à Gérard Mohamed. Ils et elles étaient plusieurs milliers à défiler cet après-midi à Paris entre République et la Gare du Nord. Vous y étiez.
Dans le cortège, beaucoup de militantes de la première heure, comme Françoise, 78 ans, retraitée, plus motivée que jamais pour défendre le droit à l'avortement.
Ce qui se passe aux États-Unis prouve bien qu'il n'y a jamais rien de garanti. D'abord, il faut savoir qu'on a beaucoup lutté pour l'avoir et demain, il peut disparaître tout comme il a disparu aux États-Unis. Les réas qui seront toujours là, de toute façon.
Des discours réactionnaires, masculinistes aussi, qui gagnent une partie de la jeunesse, alerte Maël, étudiant de 19 ans.
Sur les réseaux, on en voit partout des discours comme ça et c'est vrai que c'est assez inquiétant de voir que des jeunes de notre âge arrivent dans des courants qui sont en fait réactionnaires. Et ça représente un vrai danger et c'est pour ça qu'on manifeste aussi, c'est pour essayer de faire changer les mentalités, y compris chez les jeunes de notre âge.
Et puis il y a les coupes budgétaires subies par les centres du planning familial. Suzy Rotman est la porte-parole du collectif national pour les droits des femmes.
Il y a un centre de santé sexuelle qui a été fermé dans la Drôme pour des économies budgétaires. Il y a le planning familial du Loiret dont les subventions ont été réduites de 10%. Donc voilà quoi, nous on veut des moyens pour que ça fonctionne bien.
Message lancé au nouveau Premier ministre dans un contexte budgétaire ultra tendu. L'IVG et les droits des femmes pour ces associations ne peuvent pas être une variable d'ajustement.
Non. Reportage d'Ajra Mohamed. Le climat, mais aussi la justice sociale et la Palestine. Un mot d'ordre un peu fourre-tout aujourd'hui dans une soixantaine de villes de France à l'appel des mouvements écologistes qui regrettent de voir la question climatique reléguée au second plan dans les priorités du pays. Un homme de 67 ans, porteur d'une kippa, a été roué de coups, le visage en sang. Ça s'est passé à hier dans l'Essonne. La victime a entendu « sale juif, je vais te tuer ». Des passants sont intervenus pour faire stopper cette violente agression. Une enquête est ouverte ce soir par le parquet d'Evry. Attention, si vous avez l'intention de circuler demain dans les rues de Paris, les moniteurs d'auto-école et les inspecteurs viendront de toute la France pour manifester dans la capitale, à l'instar de ce cortège qui partira d'Orléans demain à 5h, direction Paris. Les moniteurs réclament plus d'heures de formation à la conduite et ils dénoncent aussi des délais beaucoup trop longs pour faire repasser le permis à ceux qui l'ont raté une première fois. À Orléans, reportage d'Antoine Van Dedry.
Après avoir raté son permis une première fois, Kehanou n'en peut plus d'attendre une nouvelle date d'examen.
Ça fait environ 7 mois que j'attends pour repasser le permis. Donc c'est très long. Après, heureusement que la conduite accompagnée, ça existe, mais sinon, ouais, c'est très long.
Le jeune Orléanais de 22 ans est inscrit dans une auto-école en ligne. Il reprend régulièrement des heures de conduite.
Bah, ça fait quand même un gros budget, une quarantaine d'euros l'heure, sachant qu'il faut aussi reprendre des heures pour passer l'examen.
Kehanou se dit dans l'impasse, un sentiment partagé par les moniteurs.
Moi, il y a 13 ans que je suis dans le métier. Cette situation-là n'a jamais existé auparavant.
Aurélien Foinon est le directeur de l'auto-école Les Murlins à Orléans. Pour lui, entre le manque d'inspecteurs et un permis accessible de plus en plus tôt, l'équation est impossible à résoudre.
On a balancé le permis à 17 ans pour tout le monde, sauf qu'aujourd'hui, on a fait ça avant même de s'assurer que derrière, on avait la capacité de répondre à ses besoins. Et le permis à 17 ans nous a amené quoi ? Plus de candidats à passer le permis de conduire. Avec moins d'inspecteurs, le calcul est impossible.
Il craint le pire pour l'ensemble du secteur. D'ailleurs, son activité s'est ralentie ces dernières années.
Si j'ai pas d'examen, je peux pas passer candidat. Si je ne peux pas passer de candidat, ben j'en refuse. Tous les jours, par mail, je refuse du monde sur des formations accélérées, sur des gens qui veulent des choses rapidement. Je ne peux pas.
Les moniteurs veulent aussi que les élèves fassent plus d'heures avant de passer l'examen une première fois. Selon eux, c'est un enjeu pour la sécurité routière.
Antoine Van Dendry, ici Orléans. Une altercation entre automobilistes a tourné au drame dans les rues du Mans. Un refus de priorité a fini par un coup de couteau. L'un des conducteurs de 23 ans est mort et l'auteur du coup mortel a pris la fuite. Il est toujours recherché. La suite du procès Jubilard, c'est devant la cour d'assises d'Albi. Cédric Jubilard, accusé du meurtre de son épouse Delphine en décembre 2020. Un crime sans cadavre ni preuve. L'accusé clame son innocence. Et depuis l'ouverture du procès, ses deux avocats sont parvenus à mettre en lumière quelques lacunes de l'enquête. À Albi, ils sont aussi des centaines de tarnés à venir chaque jour aux audiences pour ne rien rater de l'épilogue de cette affaire. Correspondance à Albi de notre envoyé spécial Jean-Philippe Degnaud.
40 places dans la salle d'audience, 60 dans la salle de retransmission et jamais un siège de libre. Des familles, des étudiants, droits, des retraités, des habitués, un public varié et curieux, relève Élise Costa, chroniqueuse judiciaire pour Slate.
Bien sûr, tout le monde attend des aveux, tout le monde cherche à savoir ce qui s'est vraiment passé. Mais les gens s'intéressent réellement à ce qu'est la justice. Moi, j'entends parler de gens qui me parlent de preuves matérielles, de faisceaux d'indices, ce qui ne m'arrive jamais d'habitude sur les procès quand je parle avec le public. On se rend compte qu'il y a toujours un mystère.
À la fin de l'audience, devant le véhicule pénitentiaire qui raccompagne Cédric Jubilard en détention, Émilie est impressionnée par l'audience du jour.
Il y a le fond du sujet, ça se passe chez nous, on a envie de savoir, bien évidemment. Et en fait, quand on y est, on le vit complètement différemment de ce qu'on peut entendre, de ce qu'on peut croire, etc. Mais là, on voit les gens aussi. Donc, il n'y a pas que les propos, on peut analyser aussi. Voilà ce qu'ils font, comment ils sont, tous les protagonistes, hein, que ce soit les avocats, la personne voilà, qui est accusée, etc. Donc non, c'est complètement différent et c'est très très intéressant à voir.
Le palais de justice a refermé ses portes, mais Émilie et d'autres spectateurs du procès restent de longues minutes sur le parvis pour commenter l'audience du jour.
Et les débats reprendront demain. La cour d'assises ne rendra son verdict pas avant 3 semaines. C'était Jean-Philippe Degnaud, service police-justice. Envoyé spécial à Albi. L'épreuve du jour aux mondiaux de cyclisme de Kigali. Appelez-la la douloureuse. Au final, c'est Tadej Pogacar qui s'est imposé en solitaire. Il remporte son 2e titre mondial consécutif devant le Belge Remco Evenepoel. Le Slovène de 27 ans a parcouru les 66 derniers kilomètres en solitaire. Un parcours, je vous le disais, très difficile en altitude. Très difficile, en témoignent les 135 abandons sur les 165 participants. Et parmi la trentaine de rescapés, le jeune Français Paul Seixas.
Ouais, si je regarde la course la plus longue que j'ai faite, il y a 50 bandes de plus. Et surtout, une heure et demie de plus. Donc à la fin, j'étais dans un état incomparable à ce que j'ai ressenti dans ma vie. C'était quelque chose de fou. C'était plus dans la tête et j'avais plus rien dans les jambes. Et je pense que c'était pareil pour tous les autres coureurs. C'était peut-être Poggi. C'était extrêmement dur et je pense que je reverrai rarement des moments aussi durs sur le vélo.
Voilà, le Français Paul Seixas qui termine 13e de ces championnats du monde cycliste de Kigali. Un mot de football pour vous dire qu'en 6e journée, Lyon vient de s'imposer à Lille 1-0. Et Lyon recolle donc aux côtés du PSG en tête du championnat. Et puis à l'instant, réaction de Donald Trump à propos d'une fusillade dans une église mormone, Donald Trump qui dénonce une nouvelle attaque ciblée contre les chrétiens. Le temps.
La météo avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable, créateur de machines expresso fabriquées en France et ses doses en papier naturel. À retrouver sur malongo.com.
Bonsoir Céline Dacosta.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Un temps calme demain lundi.
Oui, calme et plutôt lumineux, on va le voir. Alors le matin, on a quand même encore ces grisailles, ces brouillards qui seront bien présents du Grand Est à l'Auvergne-Rhône-Alpes. Mais tout ça va se morceler et l'après-midi, le ciel sera partagé entre nuages éclaircis sur la moitié nord et sur les Alpes et sera dégagé sur la moitié sud ou à peine voilé. Il n'y a finalement que sur les Pyrénées que ce sera un petit peu plus mitigé avec des nuages et quelques ondées l'après-midi.
Et pour les températures ?
Frais encore le matin avec une moyenne de 6 à 10 degrés dans les terres, 10 à 16 sur les côtes atlantiques et méditerranéennes. Quant au maximal, elles seront comprises entre 18 et 23 degrés du nord au sud. Ça grimpera même jusqu'à 25-26 degrés dans le Var et en Corse.
Merci Céline Dacosta.